Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi 5 janvier 2023. Avec vous, Eric Manenakidza, voici d'abord le sommaire. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants s'enfonce dans la paralysie. Les dissensions dans les rangs républicains rendent impossible le choix de son président. Le 7e vote de ce jeudi soir maintient le statu quo. La Californie en état d'urgence, frappée par une bombe cyclonique. Washington réitère son appel au Rwanda pour cesser tout soutien au M23 et retirer ses troupes de l'est de la RDC. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz empêché de quitter le pays. Il doit être jugé à partir de fin janvier pour corruption présumée. Le pape François rend un dernier hommage à son prédécesseur Benoît XVI lors des funérailles devant une foule de fidèles sur la place Saint-Pierre. En économie, le Cameroun perd 8 milliards de francs CFA de recettes douanières après la baisse des tarifs douaniers des produits pétroliers. Des sports également dans cette édition avec Yacouba Ouedraogo, mais d'abord le journal. Au moins 14 personnes ont été tuées, 73 blessées dans une collision entre deux autocars ce jeudi à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. La collision s'est produite à la sortie du sud de la capitale ivoirienne en direction d'Abidjan. 18 personnes sont également mortes dans une collision entre deux véhicules dans le nord du Nigeria, a indiqué ce jeudi un responsable local de la sécurité routière. Un bus transportant 17 passagers a pris feu après être entré en collision hier soir avec un camion près du village de Nabardo dans le district de Toro dans l'état de Bauchi. Les trois occupants du camion sont indemnes. Les États-Unis réitèrent leur appel au Rwanda à retirer ses troupes de l'est de la RDC et de stopper tout soutien aux rebelles du M23. Washington demande à nouveau à Kinshasa d'arrêter de collaborer avec les groupes armés dont les FDLR rwandais accusés de génocide. Eddy Issango.
Le département d'État, dans une déclaration d'hier soir, réitère son appel au Rwanda à cesser son soutien au M23 et à retirer ses troupes de la RDC. Il dit se baser sur des rapports crédibles faisant état des graves violations des droits de l'homme par les M23. Kigali a déjà réfuté ces mêmes accusations après les passages du secrétaire d'État Anthony Blinken en RDC puis au Rwanda en août dernier. Ned Price, porte-parole du département d'État, met aussi en garde contre l'escalade inquiétante de la xénophobie et des discours de haine incitant à la violence contre la communauté rwandophone en RDC. Il demande au M23 de se retirer des endroits spécifiés dans les communiqués de Luanda du 23 novembre. Les États-Unis saluent les efforts diplomatiques, notamment les processus de Nairobi et de Luanda, pour promouvoir la paix dans la région.
En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, qui doit être jugé à partir de fin janvier pour corruption présumée, a annoncé avoir été empêché hier de voyager à l'étranger. Il dénonce une mesure illégale. Le point avec Rosine Mounenzir.
J'étais à l'aéroport pour voyager, mais j'ai été empêché par la police qui a dit avoir reçu des instructions en ce sens, a assuré Monsieur Aziz dans une vidéo partagée sur sa page Facebook. Son passeport a également été confisqué, selon un responsable de la gendarmerie qui a requis l'anonymat. Plus tôt mercredi, le porte-parole du gouvernement, Nani Ould Shroga, a déclaré à la presse que les agissements de l'ancien président visent à influencer la procédure judiciaire en cours. L'ex-chef de l'État mauritanien sera jugé par un tribunal pour corruption présumée avec 11 autres dignitaires de son régime à partir du 25 janvier, selon une source judiciaire. Il a été placé en détention en juin 2021 pour non-respect des mesures de son contrôle judiciaire et trouble à l'ordre public avant d'être libéré début janvier 2022 pour raison de santé. Monsieur Aziz, qui crie au règlement de compte, a toujours refusé de parler au juge d'instruction. Il se dit protégé par l'immunité que lui confère la Constitution.
43 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau exploitant des travailleurs immigrés, majoritairement marocains, ont été arrêtées dans le sud de l'Espagne, a annoncé jeudi la police. Les trafiquants vendaient jusqu'à 3000 euros de faux contrats de travail qui devaient permettre aux migrants de régulariser leur situation. Plusieurs ONG engagées dans les secours pour les migrants en Méditerranée ont dénoncé ce jeudi la volonté du gouvernement italien d'extrême droite d'entraver l'assistance aux personnes en détresse par un décret sur les sauvetages en mer qui va conduire, selon elles, à de nouveaux naufrages. Les États-Unis ont offert jeudi une récompense de 10 millions de dollars pour la capture d'un dirigeant Shebab somalien qu'ils considèrent comme responsable d'une attaque d'une base américano-kenyane en 2020 au Kenya, au cours de laquelle 3 Américains ont été tués.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle journée sans speaker ici aux États-Unis. Les dissensions dans les rangs républicains l'ont paralysé jusqu'à rendre difficile le choix de son président. La Chambre des représentants vient de voter pour la 7e fois consécutive et maintient le statu quo. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Favori pour remplacer Nancy Pelosi au perchoir, le républicain Kevin McCarthy est suspendu au bon vouloir d'une vingtaine d'élus ultra-conservateurs qui l'accusent d'être trop modéré. Il profite de la fine majorité républicaine depuis les élections de mi-mandat pour poser leurs conditions. Sans leur vote, Kevin McCarthy ne peut pas être élu. L'Amérique veut un nouveau visage, une nouvelle vision, un nouveau leadership, affirme l'un d'eux, l'élu du Texas, Chip Roy. Après 6 votes infructueux depuis mardi, les élus se sont accordés pour suspendre leur débat jusqu'à ce soir. L'élection du speaker, troisième personnage de l'État américain, nécessite une majorité de 218 voix. Mais sans speaker, les représentants de la Chambre basse ne peuvent prêter serment, aucune commission parlementaire ne peut fonctionner et aucun projet de loi ne peut être adopté. Le président démocrate Joe Biden a qualifié cette situation d'embarrassante, assurant que le reste du monde suit de près la pagaille au Congrès.
Des vents violents, des trombes d'eau et d'abondantes chutes de neige vont continuer de s'abattre ce jeudi sur la Californie, frappée la veille par une bombe cyclonique qui a provoqué la fermeture de plusieurs routes. Le service météorologique américain a mis en garde contre des inondations sur les côtes, prévenant que cette tempête était capable de faire des morts. Des avis de surveillance aux inondations concernaient plus de 34 millions et demi de Californiens. Des dizaines de vols ont été annulés, des écoles ont fermé, environ 190 000 foyers et commerces sont privés d'électricité. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a décrété hier l'état d'urgence et autorisé la garde nationale à intervenir. Des ordres d'évacuation ont été émis dans les comtés de Santa Barbara et Santa Cruz au sud de San Francisco. L'ancien pape Benoît XVI est décédé samedi à 95 ans, a été inhumé aujourd'hui au Vatican. Son successeur, le pape François, lui a rendu un dernier hommage en présence de quelques 50 000 fidèles sur la place Saint-Pierre. Mohamedou Oufa.
La messe de rite latin et en plusieurs langues a été concélébrée par plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres, mais son caractère exceptionnel résidait dans la présence d'un pape aux obsèques de son prédécesseur, une première dans l'histoire récente de l'Église. Dans la foule, un groupe de fidèles brandissait une banderole avec l'inscription en italien « Santo Subito » ou « Saint tout de suite », un slogan scandé lors des funérailles de Jean-Paul II pour demander sa canonisation immédiate. Parmi les nombreux chefs d'État et de gouvernement présents figurait le chancelier allemand Olaf Scholz, compatriote du défunt pape. À la fin de la cérémonie, le cercueil a été transporté à l'intérieur de la majestueuse basilique Saint-Pierre, où il a été inhumé dans la crypte où reposait son prédécesseur Jean-Paul II, jusqu'à sa béatification en 2011, date à laquelle son cercueil a été déplacé.
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné hier à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine aujourd'hui et demain à l'occasion du Noël orthodoxe, après une demande en ce sens du patriarche Kirill. Le président russe a en outre appelé les forces ukrainiennes à respecter cette trêve afin de donner la possibilité aux orthodoxes d'assister aux offices la veille de Noël ainsi que le jour de la nativité du Christ. L'Ukraine a aussitôt rejeté la déclaration de la Russie, la qualifiant d'hypocrisie et de propagande. Le conseiller présidentiel ukrainien indiquait que la Russie essaie de trouver n'importe quel moyen de faire baisser l'intensité des combats et l'intensité des frappes sur ses centres logistiques. Le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit horrifié par les efforts systématiques visant à bafouer les droits des femmes en Afghanistan et en Iran. Il a indiqué vouloir se rendre à Kaboul et Téhéran pour discuter avec les autorités. L'Afghanistan, c'est le pire des pires, a-t-il affirmé. Les talibans ont privé les femmes d'université et d'enseignement secondaire et ont interdit aux ONG de les employer. Le commissaire souhaite demander à l'Iran l'abrogation de certaines des pratiques discriminatoires à l'égard des femmes et des jeunes filles. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barge.
Le Cameroun perd 8 milliards de francs CFA de recettes douanières par mois depuis la décision du gouvernement fin avril de baisser les tarifs douaniers des produits pétroliers, selon la direction de la douane. La prorogation de cette mesure en 2023 est en examen. La subvention de l'État pour éviter une augmentation des prix à la pompe a atteint plus de 770 milliards de francs CFA en 2022. En Ouganda, l'entreprise chinoise CRBC a annoncé qu'elle achèvera les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Kampala-Malaba le mois prochain. Plus de 200 kilomètres ont été réhabilités selon la compagnie. La ligne ferroviaire fait partie d'un réseau visant à relier le port de Mombasa au Kenya à plusieurs pays dont l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la RDC sur plus de 1700 kilomètres. La Golden Africa Djibouti a signé un contrat de 70 millions de dollars avec l'Éthiopie pour lui fournir plus de 43 millions de litres d'huile de palme. L'achat sera financé par la Banque centrale et distribué par deux entreprises publiques. Selon les données officielles, l'Éthiopie a importé 1,4 milliard de litres d'huile de cuisson durant l'année fiscale 2020-2021.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
À 8 jours du coup d'envoi du Chan, le Maroc, pas toujours sûr d'y prendre part.
La cause, sa voisine algérienne hôte du tournoi, qui a coupé les vols directs en provenance du royaume chérifien à cause de relations diplomatiques tendues entre les deux pays. Selon le site Afrique Foot, le double tenant du titre menace de boycotter la compétition si les Lions de l'Atlas locaux ne peuvent pas rejoindre directement leur base du Chan à Constantine. Des rumeurs allant dans le sens du boycott ont circulé, mais le compte Maghrib Foot indique que les autorités marocaines n'ont pas encore pris leur décision. La Fédération royale marocaine de football s'est directement adressée à la CAF pour décanter la situation.
En athlétisme, le chemin du Kenya contre le dopage sera long.
C'est ce qu'a affirmé le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coué, lors d'une conférence de presse à Nairobi avec le ministre kényan des Sports, Ababu Namwamba. Le Kenya a pris des engagements contre le dopage après avoir échappé l'année dernière à une exclusion par la Fédération internationale d'athlétisme. Mais plusieurs dizaines de ses coureurs ont été suspendus après avoir été contrôlés positifs à des produits dopants en 2022. Les autorités kényanes ont promis de dépasser 25 millions de dollars sur 5 ans pour financer la lutte contre le dopage, avec un recrutement d'agents supplémentaires, une augmentation du nombre de tests et un renforcement des programmes d'éducation et de sensibilisation des sportifs.
Enfin, les débuts de Ronaldo à Al Nassr, suspendu au départ du club d'un autre joueur étranger.
La superstar du football ne peut pas encore jouer à Al Nassr car le club saoudien a dépassé son quota de joueurs étrangers. Cristiano Ronaldo dit vouloir jouer dès que possible, à commencer par le match à domicile contre Al Tayi demain vendredi. Mais l'attaquant portugais, dont le contrat jusqu'en juin 2025 est estimé à 200 millions d'euros, est le 9e joueur étranger à rejoindre Al Nassr, dépassant le maximum de 8 autorisé par la Fédération saoudienne de football. Parmi les joueurs étrangers d'Al Nassr figure le Camerounais Vincent Aboubakar. Selon des médias saoudiens, le milieu de terrain ouzbek Jalaluddin Masharipov est le plus susceptible de céder la place au quintuple Ballon d'Or.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakidza. Place au dossier du jour. Au Bénin, les premières élections inclusives organisées depuis 2016 auront lieu le dimanche et verront entrer au Parlement 109 députés qui vont siéger pendant 3 ans. Alors que la campagne électorale est dans sa dernière ligne droite, les 7 partis politiques en lice rivalisent d'ardeur sur le terrain pour convaincre les électeurs. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Dernière ligne droite pour les partis politiques qui ont démarré depuis quelques jours la campagne pour les législatives du 8 janvier prochain. Outre le fait que ces élections seront inclusives, elles vont marquer l'entrée au Parlement d'au moins 24 femmes sur les 109 députés prévus. Pour le parti UPI Le Renouveau, dirigé par l'ancien président de la Cour constitutionnelle, les électeurs ne devraient pas se tromper de cible. Joseph Diogbenou est le président du parti.
S'il y a des décisions difficiles pour faire en sorte que la jeune fille adolescente reste à l'école et ne soit pas déviée, nous allons prendre cette décision. S'il y a des décisions difficiles pour qu'il y ait plus de centres de formation, pour qu'il y ait plus d'universités de qualité, pour qu'il y ait plus de médecins qui soient engagés à rester dans les hôpitaux, on va prendre cette décision politique, on va les renforcer. C'est pour cela que le 8 janvier 2023, vous allez faire dire à vos jeunes de choisir le parti politique qui a le courage nécessaire pour prendre les décisions dont toutes profitent à la jeunesse.
Contrairement à la campagne électorale de 2019, marquée par des actes de violence, celle-ci se fait dans une ambiance chaleureuse. L'ancien président de la République, Yahi Boni, s'est d'ailleurs invité dans la danse, appelant les Béninois à voter pour le parti Les Démocrates de Rekia Madougou.
Le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, les institutions indépendantes, le partage des pouvoirs, eh bien, c'est cette gouvernance qui doit mettre fin à l'expropriation du patrimoine national. Le conflit d'intérêts au sommet de l'État. Alors, si c'est la rupture de la rupture, je suis preneur, donc je suis démocrate.
L'implication de l'ancien président dans la campagne est mal vue par le parti Bloc Républicain qui dénonce une tentative malsaine de Yahi Boni à broyer les cartes et induit le peuple en erreur. Rachidi Badamassi, candidat sur la liste du parti Bloc Républicain.
Il s'agit d'une élection législative. Je vois mal. Ceux qui ne sont pas concernés par ces élections viennent troubler l'ordre public. Alors nous demandons humblement à nos militantes et aux militantes de ne pas céder à la provocation. Nous nous voulons la paix et je pense que il urge qu'on laisse les candidats concernés venir nous affronter. Le renfort ne va pas renverser la tendance.
De son côté, Bani Léon Biobiku dénonce la force de l'argent et appelle les populations à sanctionner ceux qui viennent leur offrir de l'argent ou des sacs de riz contre la promesse de leur vote.
Il a dit que ce sont les populations mêmes qui doivent retenir, choisir ceux qui doivent les diriger du point de vue politique. Et on va mettre comme critère fondamental l'argent. Est-ce que c'est tous ceux qui ont de l'argent, les moyens, qui du point de vue moral, du point de vue éthique, qui sont les seuls qui vont pouvoir contribuer à la gestion harmonieuse, administrative, apaisée d'une nation.
Le Cotonou, c'est notre adonné pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, forte augmentation des prix des hydrocarbures. Un arrêté du gouvernement a presque doublé le prix du litre d'essence, du gazoil et du pétrole à la pompe. Dans le pays, c'est l'exaspération à Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête de nombreux centrafricains. Le litre du super passe de 865 francs à 1300 francs CFA, soit une augmentation de 435 francs. Le gasoil s'envole de 855 francs à 1450 francs CFA et le pétrole de 650 francs à 1150 francs CFA. Ces prix sont entrés en vigueur depuis ce mercredi 4 janvier dans les stations-service. Arthur Bertrand Piri, ministre de l'énergie et de l'hydraulique, précise les raisons de cette augmentation.
Je note deux points. Premièrement, la fiscalité pétrolière, c'est-à-dire les recettes mobilisées sur la vente des hydrocarbures, varient entre 1,8 milliard et 2 milliards, voire 2,5 milliards par mois. Depuis le déclenchement de cette crise, l'État ne mobilise plus ces recettes-là. Deuxièmement, l'État continue à subventionner les prix à la pompe. Sur un litre de super, l'État débourse près de 500 francs. Sur un litre de pétrole lampant que vous achetez, l'État débourse un peu plus de 600 francs. Sur un litre de gasoil, l'État débourse un peu plus de 500 francs. Donc, il y a deux problèmes. L'État ne perçoit plus les recettes sur la vente du carburant, mais c'est l'État, par contre, qui subventionne.
La décision du gouvernement est prise en concertation avec les syndicats des transporteurs. Wilfried Ngissimali, un des responsables.
Avec toutes les démonstrations que le ministère de l'Énergie nous a fait, nous avons trouvé mieux que ça soit régularisé, que ce prix-là soit vraiment augmenté et que le carburant se vende seulement à la pompe, que de vendre ça à l'informel pour nous causer encore des dégâts, des incendies, des pertes de maisons et même des vies humaines.
Si le gouvernement et les syndicats des transporteurs ne voient pas une solution autre que l'augmentation des prix à la pompe, les conducteurs de taxis, bus et mototaxis, voire les particuliers sont plaignent.
En République centrafricaine, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Le mieux, c'est d'augmenter un peu. Si c'est à 1000 francs, ça va, mais à 1300, vraiment, je suis très désolé.
C'est un constat amer vu la situation de notre pays. La flambée des prix des denrées alimentaires, de plus que plus du carburant, et ça ne fait pas bien.
L'augmentation du carburant est décourageante déjà.
Par rapport à ce prix-là, les taxis motos vont vraiment augmenter leur prix.
Première conséquence de cette augmentation, des tensions entre clients et conducteurs de taxis, bus et mototaxis sur les tarifs des trajets. Selon Wilfried Ngissimali du syndicat des transporteurs, une réunion se tiendra prochainement pour déterminer de nouveaux tarifs. Pour sa part, l'association des consommateurs pense qu'il s'agit d'une décision brusque et non inclusive qui aura des impacts à tous les niveaux. Marcel Mokwapi, son président.
Nous regrettons que dans le dispositif de discussion de cette situation, les acteurs concernés ne sont pas associés, notamment nous, les structures qui assurons la protection des consommateurs. Nous sommes d'accord pour que l'État cherche les moyens pour compenser ce manque de subvention. Mais le consensus se dégage sur quoi? Est-ce que le pouvoir d'achat des centrafricains, est-ce que c'est bien régulé, est-ce que c'est bien suivi, est-ce que ça correspond au coût de la vie? Le plus gros employeur ici, c'est l'État. Depuis des années, les salaires n'ont jamais été rehaussés.
Frimansi Pila, Bongui, pour VO Afrique.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Au Togo, le gouvernement annonce une intensification de la lutte contre le commerce illicite de carburant. Les autorités évoquent la menace que fait peser le phénomène non seulement sur la santé des populations, mais également sur l'économie et la sécurité nationale. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
C'est le ministre de la Sécurité, le général Yark Damram, qui est monté au créneau pour annoncer la fin de la récréation. Le bilan des accidents et des drames liés au commerce illicite du carburant a motivé sa décision.
Pour l'année 2022, il y a eu au moins 23 morts. Des compatriotes qui ont péri dans des véhicules chargés de carburant. Ça, c'est ceux qui n'ont pas eu de chance. 20 blessés, il y a au moins 4 habitations calcinées. Ce n'est pas le bon commerce. Parce que les conséquences sont plus dangereuses que ce que vous pensez tirer comme profit.
Dans les villages de la préfecture de Vaud, à quelques centaines de kilomètres de la capitale Lomé, l'annonce du ministre fait grincer les dents. Le jeune Messanvie, qui fait le commerce du produit incriminé, fait fi des menaces des autorités. Dans les localités comme la nôtre, il faut parcourir des dizaines de kilomètres avant de trouver une station d'essence. Comment feront les motocyclistes pour alimenter leur engin? Et puis, cette un business qui nourrit nos familles et aide les motocyclistes. Nous demandons au ministre de revoir sa décision. Le plus souvent, les forces de l'ordre se lancent dans des courses-poursuites en voiture ou à moto pour arrêter les contrebandiers, ce qui cause parfois des accidents et des morts. Kobla, un revendeur d'essence de contrebande, parle de duplicité de la part de la police. Nous ne comprenons plus rien dans cette affaire. car les policiers et les gendarmes exigent de l'argent pour nous laisser faire nos activités et on le leur donne. Après, ce sont d'autres qui reviennent nous donner la chasse. On est confus, on ne comprend plus rien. Le président de la Ligue des consommateurs du Togo parle de mauvaise foi du ministre de la Sécurité dans sa volonté de mettre fin au trafic. Emmanuel Sogadji.
Vous comprenez avec nous que les produits qui quittent le Nigeria, qui viennent au Bénin, du Bénin au Togo, ça a passé par les frontières. Je crois que c'est quelque chose de la mauvaise foi parce qu'aujourd'hui, la lutte contre la contrebande nourrit ceux qui luttent contre cette contrebande-là. Et ça nourrit aussi la corruption et c'est déplorable en ce sens.
Le ministre de la Sécurité reste droit dans ses bottes et n'entend pas transiger sur le sujet.
Au début, on saisit le produit, on vous laisse avec votre engin. Nous sommes passés à une vitesse supérieure, on saisit l'engin. Mais les gens continuent. Il n'est pas exclu qu'il y ait des peines de prison.
Il faut ajouter que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile y voit dans ce trafic un créneau pour le financement du terrorisme dont souffre le Togo depuis l'année dernière. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Des dizaines de milliers d'innovateurs technologiques et leurs admirateurs affluent à Las Vegas cette semaine pour le CES, le salon annuel de l'électronique pour le grand public. Dina Mitchell a repéré quelques tendances prometteuses. Le récit avec Claire Morin-Gibourg.
Des chiens robots qui font des tours par commande vocale. Un engin motorisé a enfilé une chaussure pour aller plus vite. Des appareils promettant le confort, non pas dans l'univers, mais dans le métaverse. Ce ne sont là que quelques-unes des innovations présentées au Salon de l'électronique cette année.
Walk and say hi.
Marche et dis bonjour. Oh là là. Ok, va à gauche. Dis bonjour à la caméra et regarde autour. Maintenant, reviens.
Ce petit chien n'est qu'un moyen de démontrer les capacités d'une technologie activée par la voix. Marc Bagour travaille pour Erudit.
Nous avons construit une technologie vocale qui vous permet de contrôler n'importe quelle machine, n'importe quel robot, n'importe quel drone ou ordinateur dans le monde, juste en utilisant votre voix.
Plus de 140 pays sont représentés au Salon de l'électronique cette année, qui est le premier CES au complet depuis la pandémie. 100 000 visiteurs sont attendus. Près de la moitié des 3 200 exposants sont venus de l'extérieur des États-Unis, dont certains d'Ukraine. L'organisateur de l'événement a interdit les exposants russes. Gary Shapiro est le président de l'association qui organise le CES.
Nous n'autorisons pas les exposants russes à ce salon en raison de la situation en Ukraine.
Le retour en personne est important, dit Shapiro. Malgré la dépendance du monde à la technologie, la pandémie a prouvé que les humains ont besoin d'interactions personnelles. Cette année, le salon a pour thème la durabilité.
Une grande partie de ce que vous voyez, ce sont des entreprises qui répondent aux besoins de la société et qui disent « Voici ce que nous pouvons faire pour améliorer la société. Le droit à l'alimentation, le droit à l'air pur. » Et à une eau propre. Ce sont des choses que la technologie peut améliorer.
Claire Peng, de la société taïwanaise Ible, a déclaré que les oreillettes anti-bruit de son entreprise utilisent des ions négatifs pour combattre les virus et les polluants atmosphériques comme le pollen.
Il peut protéger les utilisateurs à la fois des polluants atmosphériques et des bruits ambiants.
Les fans du métaverse ne seront pas déçus. Malgré les licenciements dans le secteur de la technologie l'année dernière, les gadgets de réalité virtuelle sont bien présents. La société Shiftall, basée à Tokyo, vise à rendre la réalité virtuelle plus confortable grâce à un casque léger. Son Mute Talk, un microphone Bluetooth insonorisé, permet aux utilisateurs d'être bruyants dans le métaverse, tout en respectant ceux du monde réel. Takuma Iwasa est le PDG de Shiftall.
La légèreté est très efficace pour les gros utilisateurs, car ils passent des tonnes de leur temps dans les métavers.
Le directeur de recherche, Steve Koenig, a rappelé aux visiteurs les innovations précédentes. Des smartphones à l'Internet à haut débit il y a plus de 10 ans. Cette fois-ci, il s'agira de la robotique pour rendre le travail plus efficace, de la réalité virtuelle sur le lieu de travail et des véhicules automatisés comme les tracteurs qui s'occupent des terres agricoles sans conducteur à bord. Le CES 2023 promet de nouvelles technologies qui vont changer la vie.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Georges et Léonard Sagno pour la réalisation de cette édition et la mise en onde. Au micro, Eric Manilakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.